Christine Laroche, bonjour.
Bonjour.
Petite présentation, quoi qu'on a déjà eu l'occasion de se rencontrer un certain nombre de fois. Vous faites partie donc de l'agence économique du Chablais et aussi vous représentez le réseau Initiative Chablais. Donc c'est une des raisons de votre présence ici. Mais on va aller un petit peu plus loin parce que vous nous présenterez quelqu'un d'autre après.
C'est
donc
ça.
Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont toujours ces événements créés à l'acte. Celui-ci va avoir lieu le lundi 25 septembre. De 8h30 à 12h30, et ça se passe à publier la salle des Châtaigniers. Et qu'est-ce qu'on va y faire?
C'est ça. En fait, c'est la 7e édition de cet événement que nous organisons conjointement, l'Agence économique du Chablais et Initiative Chablais, donc deux associations bien distinctes. Cet événement, cette année, nous avions le souhait de donner quelques réflexions, réponses, pistes à nos jeunes créateurs et à nos dirigeants. En fait, ça va cibler vraiment les deux publics. Et pour ça, on a réfléchi longuement avec toute l'équipe avant de positionner le thème. Et on s'est dit, on a sous la main quelqu'un de formidable qui est psychologue du travail, qui s'appelle Cynthia Marocou. Et puis en réfléchissant avec elle, on s'est posé la question de savoir de quoi avaient besoin nos dirigeants, nos jeunes créateurs aujourd'hui pour vivre bien l'entrepreneuriat sur notre territoire. Et c'est comme ça que s'est présentée la thématique dirigée sereinement, une stratégie gagnante. Donc c'est le thème qu'on a choisi et qui se passera effectivement, vous le disiez tout à l'heure, lundi 25 septembre à partir de 8h30. À publier.
Cynthia, donc vous êtes psychologue du travail, experte en sciences sociales et comportementales. Vous êtes une jeune entrepreneuse, puisque vous étiez jusqu'à présent à la pépinière d'entreprise située à Mangy, donc chez vous. Pépinière Delta, effectivement, donc située à l'agence économique du Chablais.
C'est exact.
Et donc, ça y est, vous êtes lancée déjà depuis un certain temps, mais vous avez quitté la pépinière, ça veut dire que l'entreprise est lancée, c'est parti.
Tout à fait. oui, tout à fait. Ça fait 3 ans que j'ai lancé mon activité, donc sous la société Spark2, qui est une société d'accompagnement au changement, et qui accompagne les entreprises à améliorer les conditions de travail pour les salariés. Également, il y a des enjeux sociaux qui sont la non-discrimination à l'emploi, la promotion de la diversité, et puis la qualité de vie au travail, qui sont des sujets vraiment aujourd'hui impactants, importants pour les entreprises que j'accompagne.
J'allais vous dire, en fait, est-ce que les conditions se sont dégradées à ce point qu'il faille faire appel à une psychologue du travail dans les entreprises, ou au contraire, est-ce que ça s'arrange, est-ce que les chefs d'entreprise ont pris conscience que quand les salariés, les collaborateurs ou collaboratrices vont mieux, tout va mieux pour l'entreprise.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, le lien, en tout cas, santé et performance de l'entreprise, il n'est plus à démontrer. Les entreprises sont vraiment très convaincues de ça. Maintenant, comment agir? Ça reste encore, je pense, quelque chose de difficile. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet. Et quand j'ai fini mon diplôme de psychologue du travail en 2009, c'était vraiment un sujet très émergent.
Oui.
C'était pas encore tellement connu dans les entreprises. Et puis là, on s'est dit, comment faire de la prévention? Comment faire en sorte qu'on souffre pas au travail, qu'on soit pas en mal-être? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard, est-ce qu'il y a plus d'action? En tout cas, il y a plus une légitimité à mon intervention. Et je pense que déjà, les entreprises qui m'appellent, elles ont déjà fait un premier pas de prise de conscience.
Bien sûr. Et ce qu'on avance justement en France, on a cité beaucoup le cas des entreprises américaines, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, où alors ça résout peut-être pas tout le problème, mais où on a essayé d'apporter un certain nombre de choses pour améliorer les conditions de travail. Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que non.
Alors, ça avance, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a quand même une vraie connaissance de comment prévenir le stress au travail, les risques psychosociaux. Il y a plein d'outils qui ont été créés, alors en France aussi, notamment avec l'INRS, qui est l'Institut National de Recherche en Santé et Sécurité, qui est très actif sur le sujet pour accompagner les entreprises. Néanmoins, sur la cible qu'il y aura lors de cet atelier, qui sont les dirigeants, ce que je disais à Christina juste auparavant, c'est que c'est comme si c'était une cible à part des salariés, c'est-à-dire qu'on s'est moins posé la question si les dirigeants et leur santé avaient un impact sur l'entreprise que pour les salariés, où on a tout tourné autour d'eux. Et c'est vrai qu'il y a tout un pan à inventer aussi, à construire pour les dirigeants, de se dire comment on les accompagne à faire face au stress qui fait partie de leur activité de dirigeant aussi.
Voilà, parce que là, c'est votre intervention, c'est peut-être plus axé justement sur les dirigeants. J'imagine que quand un dirigeant ne va pas bien, même si l'entreprise ne va pas trop mal, le reste de l'entreprise ne se porte pas trop bien non plus.
En tout cas, c'est le lien qui est fait, c'est l'hypothèse qu'on peut vraiment poser, que la santé du dirigeant, c'est presque son premier capital immatériel, je pense, qu'il pourrait avoir pour son entreprise. Et en tout cas, de pouvoir se poser des questions sur est-ce que j'ai des ressources assez suffisante pour faire face au monde du travail qui, ce que vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça s'est dégradé ou pas? En tout cas, on est vraiment passé en l'espace de 50 ans d'une société qui était plutôt de la pénibilité physique, où on avait plutôt des métiers où le risque premier, c'était de se couper un doigt, de chuter. Alors, il en existe encore. Mais avec l'avènement du tertiaire, en fait, de la société de service, on a vraiment évolué vers plutôt des risques mentaux. Et notamment aussi avec ce qu'on appelle l'intensification du travail, malgré une réduction du temps de travail quand même. Le travail s'est intensifié avec beaucoup de charges mentales, la complexité, les technologies d'information, de communication. Et le dirigeant, il n'est pas à part des salariés, il vit ça aussi. Le rapport au temps est compliqué pour tout le monde, d'avoir le sentiment de ne pas arrêter et arriver à la fin de la journée, de se dire, mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas arrêté, mais concrètement.
Et puis le sentiment peut-être aussi de porter toute l'entreprise sur ses épaules, même si ce n'est pas... Tout sans les collaborateurs, il ne ferait pas grand-chose non plus, mais c'est quand même lui qui donne la direction, donc il y a le sens.
Tout à fait, et en tout cas, le dirigeant est traversé par un certain nombre de tensions et de paradoxes. On lui demande déjà de penser à long terme, mais aussi de penser à court terme. Il faut qu'il puisse avoir une vision, être un leader et en même temps être un manager du quotidien, des activités. Donc ça veut dire un premier paradoxe. On lui demande de penser aux clients, de penser à ses équipes. On lui demande de penser à ses associés parfois, etc. Donc plein de casquettes différentes. Il peut être comptable, il peut être
Sans oublier les actionnaires en plus.
Sans oublier les actionnaires parfois. Voilà, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise.
Oui, la croissance, bien sûr.
La croissance aussi, c'est assez délicat de se dire à quel moment je lâche, je délègue certaines tâches, je perds de mon expertise pour devenir un dirigeant d'entreprise.
Bien sûr, ouais.
Donc là, on a des paradoxes aussi entre je veux rendre les gens autonomes, mais en même temps, je veux quand même les contrôler. Et donc, c'est tout un ensemble de tensions où on se dit, bah, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je lâche pas.
Oui, parce qu'on ne naît pas franchement chef d'entreprise. On peut avoir la fibre quand même, mais après, on apprend quand même un certain nombre de choses en faisant des erreurs comme tout le monde.
Je pense, oui, tout à fait. Et puis, ça va dépendre aussi les ressources que je vais avoir personnelles. Quand je parle de ça, je dis, par exemple, quelle est ma proportion d'optimisme déjà, ma capacité aussi à être fière de ce que je fais, quelle efficacité dans mon travail. Donc tout ça, c'est des ressources que je peux avoir au départ. Et puis on a mis une image peut-être un peu du dirigeant pendant de nombreuses années, un peu héroïque, quelqu'un qui sait un peu tout faire et tout. Et il y a des prédispositions en termes de personnalité, mais c'est pas... tout le monde peut apprendre à devenir dirigeant. Ça va dépendre dans quel état d'esprit on se met. Est-ce qu'on est en défensif face aux tensions, ou est-ce qu'on est proactif quand il y a quelque chose qui ne nous va pas et on essaie d'améliorer.
Oui, il y avait plusieurs images. Il y avait le héros qui... on a cité comme ça quelques-uns, on ne citera pas de nom, mais les gens qui sont mis en avant, on a commencé à mettre en avant l'image du chef d'entreprise, y compris dans les publicités quelquefois d'ailleurs. Un célèbre lunetier, entre autres, et puis quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, mais qui s'est aussi bien mis en avant là-dedans. Puis à côté de ça, il y avait aussi... Le côté paternaliste, c'est-à-dire l'entreprise gérée un petit peu de main de fer, enfin, c'est encore un autre profil, effectivement. Oui.
Voilà. Tout à fait. Et puis c'est vrai que là, par exemple, avec le dirigeant, pourquoi il est autant écarté de ces sujets de stress au travail dans les entreprises? Parce que lui, il n'est pas sous un lien de subordination, comme on peut voir avec les salariés. Et souvent, on se dit que dans le stress, on va mieux le gérer si on peut être autonome, si on a du contrôle sur ce qui nous arrive. Donc on a l'image que le dirigeant est contrôle. Sauf que le dirigeant, il a autant d'exigences qu'un salarié. Il n'est pas que tout seul à décider. Il a de la pression, de la concurrence. Il a un ensemble de choses qui font aussi que lui, il ne peut pas être totalement autonome tout le temps. Et vous parliez juste avant aussi du soutien qu'on peut avoir. Et c'est vrai que je pense que les événements comme Initiative Entreprendre organisent, en fait, c'est aussi un moyen pour les dirigeants de se rassembler. Parce que le soutien, c'est très important. Et souvent, les dirigeants amène qu'ils se sentent seuls ou en solitude, ou pas assez de dialogue avec les autres, parce que quand on est vu dirigeant, les salariés déjà nous regardent différemment et il y a un peu ce sentiment de solitude. Donc c'est vrai qu'on va beaucoup se tourner aussi vers sa vie familiale, et la question de l'équilibre vie privée, vie familiale, vie privée, vie professionnelle, qui impacte beaucoup les dirigeants. En se disant, comment j'arrive à concilier les deux? Est-ce que je ne m'engage pas trop au travail au détriment de ma famille, etc. Donc ça, c'est des vrais sujets qui traversent les dirigeants.
Bien sûr. C'est des sujets qui vont être abordés, justement, lors de cette conférence, Christine.
Totalement. Effectivement, Cynthia a bien exposé un petit peu ce qui allait se présenter lundi 25. L'objet vraiment de nos thématiques, de tout ce qu'on propose au long de l'année, que ce soit l'Agence économique, Initiative Chablais, ou même parfois avec d'autres partenaires, hein, puisqu'on est très collaboratif dans nos métiers, c'est vraiment de permettre à nos jeunes entrepreneurs, les moins jeunes aussi, ainsi que les porteurs de projets, de se poser bien toutes les questions qu'ils vont avoir à confronter dans leur vie de futurs dirigeants. On n'a pas toutes les réponses, hein, je le disais déjà lors de la première interview qu'on avait fait ensemble.
Bien
évidemment, ce serait chouette, mais ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et on s'appuie volontiers sur les professionnels que sont notamment Cynthia pour cette expérience du 25. L'idée, c'est vraiment de réfléchir avec eux, de les amener à se profiler un petit peu sur les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie de dirigeant ou de futur dirigeant pour mettre le plus de garde-fous possible pour justement diriger sereinement. On est passé, on le sait tous, hein, par des événements qui ont été un petit peu difficiles. On a suivi pas mal de nos entrepreneurs lauréats initiatives, on les a beaucoup écoutés. On a, grâce à nos bénévoles, et j'en profite pour remercier l'ensemble des bénévoles de l'association Initiative Chablais, on les a accompagnés lors d'entretiens pour les écouter. Parce que ce qui est important, c'est de leur proposer effectivement de se rencontrer, Cynthia le disait, mais c'est aussi de leur donner du temps pour écouter ce qu'ils ont à dire, les réflexions qu'ils se font, où est-ce qu'ils se posent des questions et où est-ce qu'ils y voient la difficulté peut-être, ou en tout cas de pouvoir échanger. Rien que ça, c'est déjà les aider, de pouvoir les écouter. Ouais. Donc voilà, on espère...
C'est ce qui va se passer donc, le 25 septembre, pardon. Oui.
Exactement, c'est un atelier participatif et j'aime tout à fait le thème comme l'a choisi Cynthia, parce que le fait de mettre participatif derrière, c'est pas d'information descendante. C'est vraiment un travail collaboratif, tout le monde va pouvoir participer, échanger, réseauter aussi, et donc faire connaissance avec d'autres qui peut-être ont des problématiques identiques, et le fait de pouvoir en parler entre eux, ça va déjà les aider, et ça c'est important.
Voilà, et donc on s'inscrit avant quand même, c'est mieux. Hein, donc,
voilà, vous pouvez vous inscrire en tous les cas, soit en allant sur l'affiche qui est communiquée sur divers outils, sur l'Agence économique notamment ou Initiative Chablais, que vous pouvez trouver à certains endroits également chez nos partenaires. Vous avez la possibilité de nous joindre directement par téléphone. Je regarde juste 04 50 70 83 40. Et donc, c'est un événement qui est gratuit, soulignons-le, parce que c'est grâce à nos partenaires. Hein, nous remercions pour l'occasion le Pays d'Évian, Vallée d'Abondance, et également la ville de Publié qui nous accueille dans la salle des Châtaigniers. Donc, grâce à tous ces partenaires, on a la possibilité de faire gratuitement ces événements.
Voilà. Et donc, rendez-vous à 8h30. On va commencer par un café.
Comme vous le disiez, on commence par le café, parce que c'est le moment où il y a des échanges informels. Il y a déjà des choses qui se passent. Ensuite, effectivement, les ateliers participatifs. Et on finira par un verre de l'amitié, parce qu'on ne se quitte jamais comme ça. Et c'est important de se donner peut-être une petite carte de visite, de se dire, voilà, on se reverrait bien sur une autre thématique. Et c'est le réseau.
Quelle est la fréquence de ces réunions, justement ?
Alors, pour l'événement Créalac, il a lieu chaque année. Donc, 7e édition, je disais en préambule. Mmh. Nous avons également l'événement Créacim, comme son nom l'indique, qui sera plutôt sur les sommets. Et puis, de manière assez ponctuelle, on organise d'autres événements et conférences. On n'a pas de régularité qui est posée, puisqu'on essaye simplement de réagir à ce qui se passe autour de nous. En fait, on regarde un peu l'économie, on écoute nos dirigeants, et selon ce que l'on a comme information, et on essaye de trouver les intervenants qui seront, les plus pertinents pour essayer de réfléchir avec eux et avancer dans ce monde de l'entrepreneuriat.
Alors, Créalac, donc le lundi 25 septembre. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.